et philosophe public est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouvert à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Aujourd'hui, une émission des philosophes publics avec Hélène, Samy, Mathias et moi Céline. Une émission sur les roues. Donc, vous avez déjà expliqué rapidement cette aventure. Hein. Mettre une roue dans la rue, essayer d'arrêter des passants pour que les passants s'assoient et discutent avec nous d'une question philosophique. Une question qui se veut être partagée ou le défi et le désir surtout est de construire une pensée collective et dans un espace ouvert qui est un espace particulièrement fréquenté puisque là, l'émission qu'on va vous proposer, dans cette émission on va vous proposer un extrait. Ces extraits ont été enregistrés le 24 septembre, un samedi, sur la Canebière, au pied de la girafe, jour de marché.
Le hasard, alors c'est un hasard un peu faussé parce que c'est moi qui vais arrêter la roue, sinon elle tombe toujours sur le même, sur le même truc. Hop, je regarde pas quand même. Alors bleu, c'est quoi ? Religion. Bon, alors non, on a le droit de retourner. Hein. Alors, rouge, société. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Le conflit détruit-il la société ? La société m'empêche-t-elle d'être moi-même ? Faire société, une société sans travail.
Alors, ça veut dire que je suis censée avoir une.
Non, mais c'est
une
pour
idée
parler.
Particulière
non,
de
pas
ce...
forcément. Comment ça vous questionne
ou...
Le conflit détruit-il la société ? Qu'est-ce qui vous... pourquoi celui-là, finalement ?
Parce que évidemment, immédiatement, je me suis dit oui, et immédiatement après, je me suis dit qu'en fait, non. Donc j'imagine qu'il y a des choses à faire avec ça.
Ouais.
Les gens sont en train de passer ici, mais ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour discuter 10 minutes, quoi.
Gens...
Même moi, je ne suis pas assis, tellement j'ai dans ma tête qu'il faut que je me presse pour rentrer, parce qu'il y a l'heure de manger pour les enfants, et voilà. Donc, il est juste là en train de jouer au football.
Mais moi, je suis passée, j'ai dépassé. Je me suis dit, c'est pas possible.
Il faut revenir en arrière.
Il faut que je revienne, voyez.
Moi
pourquoi
aussi, j'ai
parce
fait pareil.
Que j'ai pas pensé à autre chose. J'étais pas voilà. Et en fin de compte, la société, on a nos propres problèmes et la société nous en rajoute pour que justement nous n'ayons plus cette vigilance.
C'est ce que je dis. Voilà.
Parce que j'aurais très bien pu. Ben oui, je vais faire le marché. Peut-être que je vais arriver, il y aura plus rien. Mais à un moment donné, il y aura ailleurs.
Vous n'avez pas encore fait vos courses,
là ? Non, non.
Ah bon ?
Ben oui, mais je le ferai après, à un moment donné. Mais si on
ne s'arrête pas pour discuter,
si on ne s'arrête pas, qu'on se met
bouger.
Dans un cadre, je dois faire ça à telle heure, c'est sûr que...
C'est
ben voilà, oui, voilà. Sortir de son monde, sortir du monde que nous avons dans notre tête, qui est le mental, qui nous conditionne, qui nous fait tout voir en noir, qui nous fait adhérer à des... Comment dire ? À des énormités. Déjà, si on arrive à sortir de ça, si on prend conscience de ce qu'on a là... est complètement différent de la réalité, on peut faire un pas vers du changement. Mais tant qu'on reste enfermé là-dedans, c'est une prison et on se fait manipuler par des tas de choses, par toutes les publicités. Mais dès qu'on commence à sortir de ça, on fait un pas vers le mieux-être, vers l'humanité, vers le respect des animaux, vers le respect des humains, vers le respect de tout ce qui vit. Il y aura sûrement des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je vous dis. Voyez-vous, vous me dites qu'il faut d'abord rentrer dans sa tête.
Mais non, je ne sais pas.
Vous voyez, rentrer dans sa tête, mais... On a un moment donné, quand on rentre dans notre tête, si on n'a pas fait un travail, on reste toujours avec les mêmes pensées.
Oui.
J'en ai marre, j'y arriverai pas.
Oui. Mais alors justement, pour faire ce travail, ça veut dire qu'il faut plutôt au contraire rechercher des contacts.
Se faire aider. Ah oui, bien sûr, ouais, parce qu'à la base, personne n'est né comme ça. Hein.
D'où merci d'être présent. Parce que c'est le début de la prise de contact.
Oui, des prises de conscience aussi, bien sûr.
C'est ça, c'est l'échange public qui va un peu aider à faire circuler ces idées. Si on pouvait agir à l'échelle mondiale, on le ferait, mais oui. C'est un peu difficile.
On n'est pas mégalo.
Comme on est juste prof et qu'on agit avec nos petits moyens, les moyens consistent à faire à l'extérieur de la classe ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Oui.
Voilà, c'est ce qu'on fait là en ce moment. Donc si ça peut avoir un impact politique, si vous considérez que ça améliore la communication et que ça fait circuler une parole qui est un peu difficile en ce moment, on a atteint notre but.
Bon, madame,
ça fait circuler une parole.
C'est ça.
C'est sûr. Maintenant, est-ce que ça va changer la politique, la démocratie actuelle ou...
Si on était sûr de réussir.
Faut pas trop se le demander non voilà. Plus. Hein. Parfois, l'important, c'est de faire et de voir ce qui s'est passé.
Et puis voilà, bien sûr. Hein. Et puis je pense que les générations, par exemple, votre petit garçon, la génération, il ne peut pas avoir notre psychologie et les idées que nous avons. Chaque génération, il y a des changements qui se font. Je suis persuadée qu'eux, ils auront des idées auxquelles nous, on n'y a même pas accès parce que...
Parce que pour le coup, le sujet dont on est parti, c'était peut-être perdre sa vie à la gagner. Mais là, à l'inverse, il y a un enrichissement, quoi. Enfin, je veux dire, quand on... Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
Et voilà, justement, c'est... on ne cherche pas à gagner sa vie. Et oui. Du coup, on l'a gagné.
On l'a gagné au sens économique.
Là, c'est, on a retourné le problème, en fait. En effet, hors des contraintes, hors dans un travail qui est peut-être plus de l'ordre de la définition du travail tel qu'on l'entend, eh bien, peut-être qu'on arrive à recréer du désir pour gagner sa vie. En fait, c'est... Je pense que là où on intervient, c'est, on disait au départ, c'était d'ouvrir de poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir. Et là, en effet, quand on en parle autour de nous, de ce qu'on fait, on crée du désir. Mais oui, moi aussi, j'aimerais bien faire ça, poser des questions, réfléchir sur ces choses-là.
Est-ce que tu pourrais imaginer que dans ta structure, par exemple, ou dans toutes les structures avec lesquelles tu travailles, tu dis, ben voilà, parmi les tâches qu'on peut se donner, c'est ça, finalement, c'est... Imaginez ce petit plus et cette sollicitation de la société, quoi, de la société bénévole, pour le coup, qui, tu vois, je sais pas, qui s'en pense. Ça peut être une bonne idée ou c'est utopique, je sais pas.
Bah non, enfin, je pense que ça serait même une des choses qui ferait peut-être même le plus plaisir aux politiques, parce que du coup, c'est gratuit et puis il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Hein. Maintenant... Enfin, par exemple, si je donne un exemple assez concret, je peux me dire que ça correspondrait à aller voir, par exemple, une maison de retraite et à faire ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire solliciter les gens pour faire une grande broderie ou un grand macramé au plafond de la rue principale commerçante. Mais je peux pas dire que je trouve une satisfaction dans un projet comme celui-là, par exemple.
Qu'est-ce qui manquait pour que ce soit satisfaisant ?
Parce que ça peut m'intéresser ce qui se passe au moment de la fabrication de cet objet, ou même le fait que les gens se retrouvent, enfin, mais comme un apéritif. Enfin, moi, je peux trouver ça très sympa. Par contre, l'objet en lui-même, j'ai pas eu d'attention pour cet objet.
Oui. Alors là, peut-être que justement, il fallait avoir plus d'ambition sur ce qui était posé à faire plastiquement aux personnes.
Oui, mais encore faudrait-il qu'il y ait un point de départ, enfin que tout le monde se mette d'accord sur ce qu'on va faire de cette situation-là. Et je pense que pour moi, c'est là où il y a quelque chose qui est super compliqué. C'est que c'est vachement compliqué de se mettre d'accord sur une perspective, hein, je trouve. C'est plus ça, en fait. Enfin, finalement, on est toujours en train de chercher des actions, on fait du lien et tout ça, mais c'est pas pour rien. C'est parce que, justement, c'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Et si on essaye de définir le travail, du coup, philosophiquement, qu'est-ce qui vous manque, vous, dans le fait de plus travailler, là ?
Moi, personnellement, je suis couturière professionnelle. Et j'ai travaillé longtemps. Je travaillais aide à domicile, je travaillais la couture. Bon, c'est vrai, c'est pas grand-chose pour déclarer. J'avais pas grand-chose. Malheureusement, il manque les moyens. Et quand j'ai décidé pour voir un local, local au centre-ville. Là, j'avais pas de chance, je suis tombée malade. Je me lève à 3 ans, 4 ans après, en 2010, 2011, j'ai cherché pour voir un local. C'est cher pour moi, c'était très cher. Pour louer un local, je suis seule, je travaille toute seule à local. De payer 1000, 1500 euros au centre-ville, j'arrivais pas.
Et en fait, là aussi, faut-il aimer son travail ?
Faut-il aimer son travail, je pense que c'est plus porteur.
Allez, qu'est-ce que ça évoque ?
Déjà, la question faut-il, c'est vrai que c'est ça donne une idée où il faudrait s'accommoder de son travail ou y trouver son plaisir ou son bonheur, même si... Alors là, c'est même pas trouver son bonheur au travail, c'est aimer carrément, donc c'est très fort.
C'est plus fort que, même, plus fort que le bonheur, ouais, ouais, peut-être, ouais. Effectivement.
Bon, parce que la réponse typique à cette question, c'est « Ah, oh, bah, ça dépend du travail mm-hmm. !» Alors que non, c'est, je pense que c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas son plus général. Est-ce qu'il faut aimer son travail, quel qu'il soit ?
Il faut aimer son travail pour l'aimer. Enfin, est-ce que c'est une injonction ? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'aime pas son travail ? Enfin, c'est quoi ce faut-il là ? Est-ce ouais. que...
J'ai jamais travaillé dans des grosses entreprises, mais j'entends souvent des trucs du genre qu'il y a des psychologues du travail qui viennent dans des grosses entreprises pour travailler avec les employés sur le sens de leurs tâches, sur peut-être pour les convaincre d'aimer leur travail. Ou... Je sais pas comment ça se passe ce genre de d'intervention, mais je serais curieux de voir ce que c'est. Mais est-ce que des psychologues comme ça peuvent venir dans les entreprises et dire à quelqu'un, écoutez, vu les réponses que vous m'avez données, quittez votre travail, monsieur.
Il faut changer de travail.
Et sinon, je me disais, sur la question des psychologues, effectivement, ils peuvent travailler dans le même sens que, ou pas, que le patronat ou la ONEMA, voilà. Et bon, peut-être qu'après, c'est bien aussi de mettre à nu des raisons d'aimer son travail, mais peut-être que la question du sens du travail, elle peut se poser aussi dans le collègue, en fait, celui qui fait le même travail que moi et que j'interroge. L'autre comme moi-même, qu'est-ce que toi tu aimes dans ce travail qu'on fait en commun et comment là il y a l'idée de pouvoir ensemble réfléchir au sens de ce travail.
C'est vrai que bosser avec des gens qui nous comprennent et avec qui on partage un langage commun, et c'est vrai que quand on travaille avec des gens comme ça qui nous apportent des réponses auxquelles on n'aurait pas pensé sur le sens de notre travail, ça libère. Bon, je commence à avoir faim.
Pas forcément intelligent, mais qu'est-ce que t'aimerais laisser, quoi ?
On a le droit d'affirmer de ne pas aimer son travail, mais il faut lui laisser l'occasion de nous surprendre. On est
d'accord. Donc, nous avons écouté ensemble ces petits morceaux d'un samedi... à Marseille. Évidemment, tout de suite, on précise bien que ce sont des tout petits extraits et que une des caractéristiques de ces roues, c'est la variété. Mais on espère quand même avoir pu vous donner à entendre cette tentative d'une construction collective de la pensée.
Parce que à chaque fois que les gens s'arrêtaient, en fait, on restait à peu près une heure. Avec eux autour d'une table et le temps de choisir la question, de se rencontrer et puis ensuite il y avait le cheminement de la pensée pour arriver à une conclusion finale toujours qu'on essayait de noter sur un papier pour repartir avec un condensé qui ressort bien là finalement dans les petits extraits qu'on entend, un condensé de tout ce qui s'était passé pendant cette aventure qui avait duré une heure avec nous.
Ce qui m'a, moi, beaucoup frappé à chaque fois dans ces rencontres, qui sont toutes assez finalement différentes, c'est déjà l'intuition immédiate de la question. Vous avez peut-être pu l'entendre dans ces extraits. Souvent, les personnes vont vraiment directement, sentent directement la difficulté ou un problème qui se pose. Et malgré justement cette singularité, malgré ces différences, quels que soient les horizons des gens qu'on a pu entendre, on a retrouvé quand même cette question, cette jubilation et aussi cette nécessité à la discussion, à l'échange, à se communiquer, à se partager finalement, de passer de nos opinions à des jugements, mais quelque chose qu'on puisse construire collectivement. Et cette expérience, je trouve, est assez enrichissante, en tout cas pour nous.
Oui, ce que j'ai trouvé très, très émouvant, c'est que, comme tu le dis, comme on entend aussi les gens le dire dans ces extraits, c'est que les gens disaient qu'il était presque nécessaire de s'arrêter. Alors c'était assez, assez étrange en disant, mais oui, oui, vraiment, c'est important de s'arrêter. C'est comme si venir nous parler à nous, philosophes publics, c'était parler à tout le monde. Et c'était déjà se parler ensemble, et c'était aussi se parler à soi-même, et qu'il était vraiment important de prendre ce temps. Là, les gens disaient il faut que je m'arrête, c'est pas quand même normal de ne pas avoir du tout le temps de s'arrêter, ni le temps de parler. Et je trouvais que cette nécessité-là, c'était un petit peu comme un cadeau qui nous était fait, que les gens se faisaient aussi à eux-mêmes. Et je trouvais que pour nous aussi, qui faisons à la fois ce métier de pensée, qui avons ce goût-là, il y a une sorte d'hospitalité réciproque qui se passe avec, on accueille la parole, mais on se sent aussi accueilli, puisque parfois, les gens parlent aussi de leur vie avec cette importance-là de trouver comme un espace de tiers. Et il y a un plaisir et voilà, quelque chose de l'ordre de l'importance, quoi.
Il y a une phrase qui a été dite qui est assez géniale quand une dame dit « Oui, une prise de contact, c'est une prise de conscience ». Donc il me semble que là, ce qu'on entend, c'est l'importance du contact. Évidemment que la prise de conscience, on peut la voir en lisant des livres, en écoutant des émissions de radio, en regardant des films. Mais il y a un type de prise de conscience que la philosophie thématise ou défend, hein, et qui est la prise de contact. Et peut-être que nous, en réécoutant ces extraits, ce qu'on ne peut pas vous donner à entendre, mais ça fait partie de la radio, c'est aussi tout ce contact physique. Comment on s'approche les uns les autres, comment on raconte autre chose avec nos corps, comment on s'assoit, comment on prend le temps du silence, de laisser progressivement monter les questions, les échanges. Et effectivement, là, ce qu'offre la rue, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et quand l'espace public devient qu'un espace de méfiance, un espace où on se met à avoir peur d'y être, on retrouve finalement, enfin en tout cas moi je le retrouve très sincèrement, ce que ça apporte que d'être ensemble avec nos étrangetés, avec nos altérités, avec nos différences. Et finalement, d'une certaine façon, c'est une réponse par l'acte à quelque chose qui se produit et dont on souffre. Je crois, c'est l'idée qu'on est tous rabattus qu'on est tous isolés et qu'il n'y a plus de possibilité de communiquer ou de faire circuler les pensées.
Et d'ailleurs, ce que dit Céline, c'est justement le point de départ de notre action, c'est justement d'arrêter d'être réduit au silence. C'est la conscience que beaucoup de gens qu'on rencontre ont, c'est justement que l'espace public est un espace où on est réduit au silence. Et cette action d'être dans la rue et de pouvoir justement entendre des paroles qui viennent de toutes parts et qui finalement reconstruisent quelque chose comme une pensée commune, est une nécessité première. On parle beaucoup de nécessité, mais je crois que cette réduction au silence par la politique, par le fait qu'on ne soit pas toujours écouté, que les singularités n'intéressent personne au nom de pensée générale, mais qui ne le sont pas en fait, fait beaucoup de bien et finalement tente au moins de prendre conscience au moins de ce qu'on n'a pas pu dire.
Enfin, on peut peut-être revenir sur les questions justement qu'on pose aux gens, parce que finalement le dispositif, il repose sur quelque chose de tout simple. On reprend des questions qu'on pose à nos élèves, des questions qui peuvent tomber au bac, donc des questions qui sont complètement, enfin très très ouvertes et qui parlent de thèmes très abstraits finalement. Enfin, oui, mais que les
abstraits, mais proches.
Mais que les gens, enfin, s'approprient de suite en se demandant même, mais c'est qui a posé cette question? Parce que là, ça va pas, quoi. Le faut-il, c'est compliqué, ça a plusieurs sens. Et puis là, finalement, ça pose un problème. Et de suite, enfin, on y vient, ils racontent, on part d'histoire. Et puis, ça s'élargit vers toutes les possibilités possibles qui donne du sens à ce qui manque, voilà, dans ce qu'on disait tout de suite là, dans l'espace public. Et s'il y a plaisir, c'est bien parce qu'il y a un manque Et en fait, on propose quelque chose de tout bête, qui est juste une question, et ça crée en fait un échange qui donne forme à notre journée et à la pensée.
Et ça, je trouve aussi que ça vient tout questionner en même temps, parce que tu disais que c'était un petit peu comme des questions du bac, et en même temps c'est tellement différent. Ça vient aussi questionner l'école, parce que parfois quand ça marche pas, on ne se les approprie pas de la même manière. Et là, les gens dans la rue, tout d'un coup, ce sont leurs questions aussi, et c'est même ce qu'on aimerait qu'il se passe parfois à l'école, ce qui se passe parfois là dans la rue. À savoir que les gens s'approprient les questions, commencent, et là, l'intelligence elle est comme immédiate, avec des doutes, avec un engagement dans la pensée, et quand ça marche en classe, ça se passe comme ça aussi. Donc je trouve que tout est questionné en même temps, à la fois les gens, nous, et puis la rue, ça questionne aussi cet endroit-là, cet endroit si particulier du haut de la Canebière, parce que on sait bien par expérience, je sais pas, quand j'ai déjà tracté par exemple pour les sans-papiers, pour moi-même en haut de la rue Saint-Féréol, il n'y a pas du tout le même accueil, on n'est pas du tout dans le même rythme, c'est pas le même lieu. Je trouve qu'à la fois ça vient révéler le lieu et l'important de ce lieu-là. On sait qu'il y a des projets aussi d'architecture sur ce lieu-là, à côté du square là, et de la girafe, et en même temps ça vient créer le lieu, on vient habiter un peu ce lieu-là par une parole, on vient s'asseoir, donc ça crée un lieu, un temps aussi, et de cet espace-temps-là naît aussi une parole très singulière qui est celle dont on a parlé ensemble, une parole publique, et je crois que cette parole-là est propre à la pensée, enfin celle qu'on cherche aussi, parce que ça nous questionne nous aussi pour ce qu'on propose. Il y a plein de façons de penser différemment, et même dans la relation qu'on a avec les gens, on a beaucoup cherché dans nos débats aussi entre nous, souvenez-vous quand on se demandait quel mot mettre là-dessus, est-ce qu'on va dire qu'on est un collectif des philosophes publics à la disposition des gens, et parfois c'est gênant ça d'être à la disposition aussi d'eux pour plein de raisons, et moi j'aimais bien penser avec plutôt, parce que ça sert à tout le monde, et on sait pas qui a commencé ni qui est responsable, même si on voit bien qu'il y a deux parties de la table,
mais là pour donner envie aux gens peut-être aussi de venir nous rencontrer, on pourrait peut-être essayer de poser les questions qui se posent, enfin qu'on tire au sort.
Tu as envie d'y retourner,
c'est samedi,
hein,
c'est dimanche. Mais oui. Ben oui.
Eh ben allons-y.
Je sais que, là, j'essaye de reprendre les questions peut-être qui ont été posées dans les extraits qu'on a entendus. Moi, je sais que la question sur laquelle on avait travaillé avec Marc, c'était « Peut-on perdre sa vie à la gagner ?» Une question qui a pris tout de suite beaucoup de sens par l'opposition entre perdre et gagner. Enfin, ça a été bien compris. Puisque
d'ailleurs, la dame qui intervient et qui raconte une situation concrète de travail est extrêmement intéressante. On part vraiment d'une réalité. Et là, on ne part pas de concepts planent. On n'est pas au-dessus de la mêlée. On est au contraire au cœur des réels problèmes du travail.
Voilà. Après, je ne sais pas les autres questions sur lesquelles...
Il y a plein de questions sur... faut-il aimer son travail? Est-ce que le conflit peut avoir un sens en démocratie? Est-ce que ce sont des questions effectivement qui à mes yeux n'appartiennent ni au bac, ni à l'école, ni à nous, mais ce sont des questions existentielles. Et là, ça a toujours pour moi, de la force de les reposer comme ça dans un espace. Mais si effectivement c'est un espace, il me semble un espace assez nu, assez pauvre, dans le sens où il n'y a qu'une roue, bon, qui rappelle le vélo, qui est aussi un moyen de se déplacer qui est humble. Ouais. Et du coup, j'aime bien cette brutalité au sens de ce que ça invente. Mais effectivement, après, je crois que c'est très très humble aussi comme projet, et que je ne sais pas ce que ça produit en réalité. Mais c'est pour ça que de réentendre avec vous là cette femme qui dit là, pour une fois, je vais pas courir pour faire mes courses et juste suspendre un petit peu ce temps qui est le mien, et on voit très bien à quoi il renvoie, faire les courses, travailler, nourrir, protéger, etc. Que de temps en temps, la philosophie puisse être un ralentissement ou un véritable arrêt dans des mécanismes qu'on est obligé de faire. Bon, pour ça, je trouve que c'est une petite brèche. Voilà, je sais pas exactement.
Pour gagner sa vie, justement.
ou en tout cas pour ou peut-être pour reprendre un autre mot qui a été dit par toi, Hélène, je crois que peut-être c'est aussi créer du désir et effectivement de remonter comme ça à la source du désir, bon, de d'être ensemble et de pas être tout seul. Et juste, je voudrais juste dire quelque chose sur Kant, un philosophe du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, bon, il y a ce passage à la rue, prendre la rue, renverser des ordres établis. Il dit que si on ne rend pas public, au sens de soumettre sa pensée à d'autres, le danger, c'est même plus qu'on pense tout seul, c'est qu'on ne pense plus du tout. Et cette idée-là, bon, elle est forte, il me semble.
Bien sûr.
Et aussi pour être en écho avec ce que tu disais, Hélène, avec ton désir de reprendre les questions, moi je reprendrais plutôt la façon qu'ont eu les gens de pas reprendre les questions ou alors de les transformer. Et je trouvais que c'était toujours aussi très intéressant de voir mille façons aussi, et puis avec du temps de voir des façons de penser. On a avec Marc, je me rappelle de quelqu'un qui avait vraiment besoin de parler d'une vie et qui a fait un long récit, et je pouvais pas m'empêcher d'entendre aussi quelque part de la pensée, même si elle est venue tout à la fin, ce moment où on essaye de sortir des douleurs, de se poser des questions. Mais là, il y a aussi une pensée à même la vie, de par la façon et même le dispositif qui se déroule entre nous. Et ça montre que c'est très ouvert, parce que tu parlais aussi tout à l'heure d'une heure d'intervention, mais je crois qu'au départ, quand on arrive, on le sait pas du tout. Et même peut-être que ça va durer moins, où on pourrait imaginer aussi qu'il y ait des prolongements, parce qu'il y a une personne avec laquelle on est encore en contact. Voilà,
oui,
parce
il y a
que
des
ça...
personnes qui viennent se greffer. Et en fait, on continue...
Il y a même un monsieur qui est resté toute la journée, qui est venu le matin, qui est revenu l'après-midi, qui nous a raconté des histoires de sa propre vie qui étaient absolument incroyables, et qui en même temps, ça lui a permis aussi de mettre à distance des situations douloureuses, etc. Mais ça lui a permis, on a senti que ça lui a permis de mettre à distance cela, et peut-être qu'il en avait finalement très peu parlé de cette histoire, de son histoire en fait.
Sachant que ces personnes-là ne monopolisent pas jamais la parole, écoutent aussi tout ce qui se dit, et c'est ça qui est très important.
Et peut-être que ça fait écho aussi avec une période de déni, de tellement de paroles qui sont soit rabattues sur des choses qu'elles ne disent pas vraiment ou carrément pas entendues.
J'ai apprécié aussi que parfois certaines des personnes qu'on pouvait connaître, des amis sont passés, et avec un grand sérieux, parfois se sont assis et ont décidé de travailler quelque chose qui leur tenait à cœur. C'était pas mal un bel hommage, et moi j'y viendrai pour ça aussi, à la limite, peut-être une fois j'y viendrai anonyme, incognito, hein, puis
on te reconnaîtra en perruque.
Avec une perruque, et puis j'aurais envie de discuter avec vous de choses qui me tiennent à cœur, mais je crois que ça se passe avec tout le monde.
Sinon, il y avait une petite fille de 10 ans qui venait de Roumanie, qui parlait très mal français, et elle s'assoit à la table, et donc je comprends que c'est un peu compliqué de parler, puisqu'elle maîtrise un peu, mais quand même pas beaucoup le français, mais il y a plein d'échanges qui se passent, et puis elle prend un plaisir inouï et inattendu à lire tous les mots donc qui sont sur les roues, comme le mot de société, de bonheur. Mais à chaque fois que je disais ça, tu comprends? Elle me dit non, ça je comprends pas bien. Arrive le mot liberté qu'elle prononce parfaitement. Je lui dis ça, tu comprends? Et là, elle s'arrête et elle dit oui, la liberté, c'est de danser. Et elle s'en va.
Et cette même petite fille, je l'ai prise, on s'est pris en tête à tête. Donc je lui dis de quoi tu veux me parler? Et elle me dit je voudrais parler du bonheur. Donc, elle avait compris le terme aussi. Et alors, elle avait pas mal de mal à s'exprimer. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu n'arrives pas à le dire, dessine-le-moi. Et donc, elle a dessiné, évidemment, un dessin d'enfant avec sa maman, sa sœur, la maison, la petite poule dans le jardin, etc. Et en même temps, derrière cette expression du bonheur, il y avait aussi... toute une histoire qu'elle a lâchée comme ça en moins de 2 minutes sur son père, sur son histoire au pays. Elle venait d'arriver. Et enfin, moi, ça m'a énormément ému, ça m'a vraiment touché.
Ben avec toutes ces paroles-là, moi j'ai l'impression que ça donne envie d'y retourner. Je pense qu'il y aura sur le blog des philosophes publics les prochaines dates pour les prochaines roues. Voilà, et vivement.
Oui.
Et on pourra aussi annoncer les prochaines émissions, y compris peut-être aussi l'émission de Christophe Massot qui nous a fait le plaisir d'enregistrer ces quelques extraits. Mais on verra tout ça.
Nous vous remercions donc d'être resté un petit peu avec nous, d'avoir partagé ces moments, et vous êtes les bienvenus. Peut-être à partir du mois de janvier, il va y avoir un petit dimanche par mois, pas loin de la Canebière, tout près. Mais on vous tiendra au courant.
Au revoir.
Au revoir.